Frères et sœurs bien-aimés, nous contemplons en ce dimanche le Seigneur descendant de la montagne, entouré de ses 12 apôtres qu'il a appelés, choisis et établis comme intendant des mystères de Dieu. Nous le voyons entouré de cette foule de disciples venant de lieux si différents. Le Seigneur alors ouvre son âme et leur enseigne les béatitudes. Lorsque nous contemplons le Christ, nous ne contemplons pas seulement un homme qui serait venu tel un prophète pour parler de la part de Dieu. Le mystère du Christ que nous contemplons, c'est le mystère de Dieu qui s'est fait homme. C'est Dieu qui s'adresse aux disciples. Aux disciples d'hier, ceux qu'il a concrètement près de lui au jour de son incarnation, et aux disciples d'aujourd'hui, nous qui sommes réunis en son nom et qui l'entendons descendant de la montagne entourée des 12, nous donner comme à eux les béatitudes. Heureux vous les pauvres, dit le Seigneur, malheur à vous les riches. Il ne s'agit pas tout d'abord de richesses financières et matérielles. Il s'agit de la disposition essentielle de notre âme pour être sauvée. La pauvreté est avant tout une vertu spirituelle que le Seigneur nous invite à cultiver parce qu'elle est la porte ouverte aux richesses de la grâce de Dieu. Cette pauvreté intérieure s'appelle l'humilité. La devise de ce pays l'affirme. Le Toï ne craint que Dieu. Respectant Dieu, le Toï se fait petit. Petit devant l'œuvre de Dieu, devant l'œuvre de son salut. Notre peuple est un peuple de bergers, et les bergers cultivaient cette pauvreté d'âme qui confessait, qui chantait la grandeur de Dieu, entourée des panoramas grandioses de sa création. Leur âme était ouverte au règne de Dieu. C'est ce que le Seigneur veut que nous cultivions en nos âmes. Non pas les richesses de nos connaissances scientifiques ou je ne sais encore, qui pourrait faire que nous soyons repus, que nous soyons sans question. Le Seigneur veut au contraire que nous ayons des âmes de pauvres pour qu'il puisse alors établir sa demeure en nous et déverser alors le flot de ses grâces, de sa miséricorde. Au lendemain de la Pentecôte, voilà que les apôtres ont reçu toute la science de Dieu. Cette science que nous appelons infuse, il y a cette expression que l'on disait peut-être plus couramment jadis qu'aujourd'hui, « Je n'ai pas la science infuse, je ne sais pas tout. » Les apôtres sont assistés de Dieu le Saint-Esprit qui nous conduit, mais eux à un titre particulier, vers la vérité tout entière. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus ne s'adresse pas comme de coutume aux foules qui l'entourent. Il lève les yeux sur ses disciples, sur ses apôtres. Le regard de Dieu se pose alors sur eux, sur ceux qu'il a appelés, choisis et établis, les 12, pour être les intendants des mystères de Dieu. Car cette révélation divine que le Christ vient accomplir, notamment par sa prédication ici-bas, contenue dans les Saintes Écritures, rapportée par la tradition de l'Église, eh bien, est accompagnée d'une science particulière accordée aux apôtres. Le regard du Seigneur Jésus sur ses apôtres leur communique, outre ses paroles, toutes les richesses de son enseignement, de telle sorte que cette unique révélation du Christ est achevée, accompli, tout nous est donné. non pas à la mort du Seigneur, puisque notre foi serait vaine sans affirmer la résurrection, comme nous l'a rappelé saint Paul. Cette révélation ne s'achève même pas lorsque le Seigneur s'élève à la gloire du ciel. Non, le regard de Dieu s'est posé sur ces hommes qu'il a appelés par leur nom, qu'il a choisis et établis pour être ses amis particuliers. Ils sont les intendants des mystères de Dieu. C'est à la mort du dernier apôtre que s'est achevée la révélation. Raison pour laquelle, dans l'Église, nous vénérons tout particulièrement les apôtres, car c'est sur leur foi, sur leur témoignage, sur leurs écrits aussi, sur la tradition qu'ils ont accordée que repose notre foi, que se nourrit notre espérance et que est bien vive alors notre charité. Le Seigneur lève les yeux sur ces hommes dont certains sont matériellement plus pauvres que d'autres. Les pêcheurs du lac de Galilée n'ont sans doute pas les mêmes moyens financiers que saint Matthieu, le collecteur d'impôts, ou que d'autres membres de la famille même du Seigneur. Mais voilà que le Seigneur veut que dans leur âme soit cultivée l'humilité. Je reconnais ma petitesse pour accueillir la grandeur de ce Dieu qui se donne à moi. En regardant les apôtres, en levant son regard sur eux, il voit, il connaît chacune de leurs pauvretés. Il sait déjà le reniement de l'apôtre Pierre. Il sait déjà la traîtrise de Judas. Son péché est bien grand, car il n'est pas simplement un homme parmi tant d'autres, il a été établi apôtre, assisté de Dieu le Saint-Esprit dans ses grandes leçons de vie spirituelle qu'il reçoive du Seigneur. Le Seigneur sait déjà tout cela. Mais voilà que Judas sera repu des miracles, des signes qu'il a pu voir. Il sera riche à la manière du monde, vendant son Seigneur pour 30 deniers d'argent. Bien voilà ce que ne veut pas le Seigneur pour nous, que nous nous installions, même dans notre vie spirituelle, mais que nous accueillions toujours le Christ, qui est toujours nouveau en ses enseignements. Le Seigneur, en regardant ses apôtres, voit bien qu'ils ont faim de lui, faim de son règne, règne d'amour et de paix, règne du monde à venir. Alors que ceux qui sont riches à la manière du monde sont déjà rassasiés. Il voit également le Seigneur en levant ses yeux sur eux, toutes les tristesses de leur existence. « Heureux vous qui pleurez maintenant, leur dit-il, car vous rirez. La joie de l'autre monde nous est promise en plénitude, en paradis. » Eh bien, le Seigneur Jésus ne leur dit pas « Arrêtez donc de pleurer, je suis l'espérance et la vie », non. Nous nous souvenons dans l'Évangile avec quelle humanité, avec quelle compassion, avec quelle miséricorde. Le Seigneur, entrant dans une ville, voit une mère qui pleure, accompagnant le cercueil de son enfant trop tôt disparu. Il l'arrête et rend son fils à sa mère. Nous nous souvenons aussi combien le Seigneur a pleuré la mort de son ami Lazare, bien qu'il va le ressusciter quelques jours après. Nous souvenons aussi, montant vers Jérusalem pour offrir son sacrifice, à quel point le Seigneur pleure en voyant la ville de Jérusalem qui ne l'a pas reconnu, lui, le Dieu Messie, qui va offrir sa vie sur le bois de la croix. Il y a tout cela dans ce regard du Seigneur qui proclame les béatitudes, regard posé sur les apôtres, regard posé sur les disciples, disciples d'hier, et aussi regard du Seigneur posé sur nous aujourd'hui. Il connaît les pauvretés de nos cœurs. Il connaît également la faim que nous avons de lui, de le recevoir. Il connaît également nos pleurs et nos larmes et nous promet alors l'espérance de la vie du monde à venir où sera toute paix. Enfin, en levant ses yeux sur les apôtres, il leur dit bien « Heureux serez-vous quand on vous insultera, rejettera votre nom comme méprisable, le nom de chrétien, celui qui avance à la suite du Christ. Réjouissez-vous, tressaillez de joie, votre récompense sera grande dans les cieux. » En levant les yeux sur ses apôtres, il sait déjà qu'ils vont le suivre étroitement dans le mystère de la croix. Saint Paul Saint Pierre sera crucifié à la suite de son Seigneur, Saint Paul décapité en la cité romaine. Saint André, nous le savons, crucifié tout autant. Voilà ceux que le Seigneur a choisis qui vont le suivre étroitement, du mystère de la croix jusqu'à la résurrection, jusqu'à la joie de ce monde à venir. Alors nous rendons grâce aujourd'hui, parce que ce regard de Dieu qui se pose sur nous, eh bien, n'est pas découragé par notre manque de foi. Il sait que la foi est un don qui vient de Dieu. En reconnaissant que nous sommes pauvres, en reconnaissant que nous avons faim et soif du Christ, eh bien, nous l'accueillons, lui qui proclame les béatitudes, il vient établir en nous sa demeure. La bienheureuse Vierge Marie, chers frères et sœurs, que nous avons fêté avec toute l'Église, Notre-Dame de Lourdes, affirme dans son Magnificat qu'elle a été choisie parmi toutes les femmes, parce que le Seigneur, lui, a posé les yeux sur la pauvreté, sur l'humilité de sa servante. Alors elle peut reconnaître combien le Seigneur a fait en elle et pour nous de grandes merveilles, puisque par elle nous est venu le Sauveur. Sainte Bernadette, que nous honorerons mardi prochain alors que nous sommes dans cette octave de Notre-Dame de Lourdes, également a connu cette pauvreté. Elle pourra dire en vérité, « Heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux ». Bernadette, elle connaît la pauvreté, une pauvreté qui a même fini par atteindre la misère à l'heure des apparitions. Elle connaît également la pauvreté, les pleurs d'une mauvaise santé qui, chaque jour, la fait souffrir. Elle ne peut guère digérer depuis qu'elle a eu ce choléra enfant. Elle ne peut guère respirer en raison de cet asthme qui l'oppresse intérieurement. Elle saisit toujours son chapelet. Chapelet qui l'unit à la Vierge Marie, le chapelet qui est le soutien et l'espérance de ces crises d'asthme où elle pense rendre son dernier souffle. Heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, dit le Seigneur, et Bernadette connaît tout cela. Heureux serez-vous quand on rejettera votre nom comme méprisable, voyez la déchéance du nom Soubirous à l'époque des apparitions, de grand maître meunier à finir par travailler comme simple journalier, nourrissant comme l'on peut sa famille. Et puis Bernadette, qui en raison de ses apparitions sera montrée du doigt, giflée, sera amenée à devoir témoigner de sa foi, de ce qu'elle a vu, de ce qu'elle a entendu de la belle dame, chez le commissaire de police, chez le procureur impérial, chez le commissaire de justice. On lui demandera toujours de rendre compte de ce qu'elle a vu. Eh bien, nous comprenons que le Seigneur ne nous choisit pas pour ce que nous pourrions lui donner. Le Seigneur nous choisit d'abord pour établir sa demeure en nous. C'est alors qu'à travers nous, il pourra donner. Donner de sa joie, de sa paix, de sa consolation. Car le disciple configuré au Christ a alors à être un autre Christ vers le prochain auprès de qui il est envoyé. Nous demandons à Notre-Dame de Lourdes de nous prendre chacun en pitié. Elle nous dit comme à Bernadette, « Je ne vous promets pas le bonheur de ce monde, mais de l'autre. » Elle ne nous promet pas le bonheur de ce monde pour ne pas que nous soyons repus de ses richesses éphémères. Elle nous promet le bonheur de l'autre monde. Si, comme Bernadette, nous ouvrons notre âme, si nous la laissons être façonnée par la prière, si dans notre prière nous portons l'intention de la conversion des pécheurs et des pécheurs que nous sommes, si nous manifestons des gestes de pénitence pour manifester au bon Dieu combien nous l'aimons, combien nous avons le désir de revenir à lui, et puis nous sommes également conduits vers le bonheur de l'autre monde, si nous allons à la source qui n'est autre que le Christ pour boire de ses enseignements et pour laver nos péchés dans sa miséricorde. C'est tout cela que signifie le nom de la Dame, Immaculata Conceptio. Elle est immaculée, elle est sans péché, elle est la conception de l'Église, parce qu'elle est notre mère, celle qui a conçu le Seigneur dans l'ordre de la chair, à la mission maternelle de nous concevoir chacun dans l'ordre de la grâce. Alors nous demandons à Notre-Dame de nous aider à faire face au regard du Christ qui proclame les béatitudes, comme le Seigneur nous regardera au moment où le mystère de la mort de notre Pâques nous fera paraître face à lui. Prions pour que pour chacun d'entre nous, dans sa miséricorde, le Seigneur puisse dire « Entre maintenant, bon et fidèle serviteur, dans la joie de ton Maître, ainsi soit-il. »